Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jean-Baptiste,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
J'aimerais avec vous et avec nos auditeurs ce soir partager ce texte de la parole de Dieu et ensuite le commenter avec un exemple pratique, vivant, compréhensible pour chacun d'entre nous ce soir. Je lis cette parole qui a été citée par l'apôtre Paul, cet homme qui avait un passé, qui a eu une rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, et qui est devenu l'apôtre Paul. C'était un homme qui avait une religion la plus sophistiquée d'Israël, la plus intégriste qui soit. Il était pharisien parmi les pharisiens. Il avait été enseigné la loi de Dieu au pied d'un homme appelé Gamaliel. C'était un homme intègre, c'était un homme droit, c'était un homme pratiquant. Et il a commencé à se révolter contre la prédication du nom de Jésus. Et il est devenu un homme qui a même violé la loi de Dieu, puisqu'il a tué nombreux chrétiens, nombreux chrétiennes, nombreux enfants, à travers des missions punitives qu'il menait en Israël et même en dehors d'Israël. Et un jour qu'il est en chemin pour aller persécuter les croyants dans la ville de Damas en Syrie, le Seigneur Jésus se révèle à lui et cet homme deviendra un chrétien authentique. Le casseur de chrétiens a été brisé par l'amour du Seigneur. Amen. Et il est devenu l'apôtre Paul. Et alors il écrit ces paroles conduites par le Saint-Esprit. Au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 17, il écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est repartir à zéro. La possibilité que Dieu, en Jésus-Christ, donne à tous les hommes l'occasion de pouvoir repartir à zéro. Et pour éclairer cette pensée ce soir, je voudrais prendre cette scène de l'Évangile que certainement beaucoup d'entre nous connaissent cette scène particulière, bouleversante, où la puissance de Jésus s'est manifestée là, dans un cimetière, au bord d'une tombe. La Bible nous dit que l'ami de Jésus, nommé Lazare, a été malade et que sa maladie l'a conduit à la mort. Et de la mort, Lazare a été conduit dans un tombeau. On a parlé à Jésus de cette situation et la Bible nous dit que Jésus fera le déplacement jusqu'à Béthanie. Il rencontrera à cet endroit les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Il sera conduit au bord du tombeau. Une grande foule y est présente. Tous sont en larmes. Il y a là de la détresse et du chagrin. Il y a une peine immense. Et là, au bord du tombeau, ce tombeau qui est fermé par une pierre, la Bible nous dit que Jésus va commander qu'on roule la pierre, qu'on enlève la pierre qui obstrue le tombeau. Et alors que l'on s'exécute, la Bible relève ce fait et l'apôtre Jean l'a écrit. La Bible dit ceci, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller !» Voilà ce que fait Jésus, voilà ce que Jésus a fait pour Lazare, mais voilà ce que Jésus fait encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans le cimetière de la mort, tous ceux dont la Bible dit qu'ils sont morts dans leurs péchés, morts dans leurs fautes, morts dans leurs iniquités. Les hommes, dit la Bible, sont morts. Ils sont sans relation avec Dieu et ils sont plongés dans un vaste cimetière. Je pourrais dire ce soir que la planète entière est un cimetière. Mais Jésus se tient là, au bord de chaque tombe qui pourrait être marquée de notre nom. Et il parle à notre voix, à notre cœur, à notre esprit, à notre intelligence. Ce jeune, ce soir, nous a raconté comment, là, dans son cimetière personnel, il a entendu la voix du Seigneur le pénétrer et le ramener à la vie. Il est sorti de la mort, il est passé à la vie et il est reparti à zéro. C'est là le miracle qui s'est passé pour Lazare. Lazare a recommencé une nouvelle vie. Il a rencontré celui qui est la résurrection et la vie, Jésus. Et la Bible nous dit que Lazare est revenu à la vie. Et je pense personnellement que si nous avions interrogé Lazare sur une question bien humaine, nous lui aurions dit, Lazare, quel âge as-tu? Et Lazare aurait pu nous dire, j'ai un jour. Peut-être aurait-il pu nous dire, j'ai deux jours. Peut-être aurait pu nous dire, j'ai 10 jours, un mois. Moi, je ne sais pas quel âge vous avez, Mais je vous demande ce soir de ne pas regarder, d'ailleurs vous ne voyez pas, et ça me soulage, ne regardez à mes quelques poils blancs, mais moi je n'ai que 32 ans. Alléluia. 32 ans avec Jésus, parce qu'il y a 32 ans, Jésus m'a ressuscité. Amen. Il n'a pas ressuscité en réalité mon corps qui était dans la mort, dans un cimetière, là, en métropole, mais il a ressuscité ma vie. Il a ressuscité mon âme, et je dis ce soir que je suis bien vivant par l'amour et par la puissance de Dieu. Jésus nous fait repartir à zéro, que Dieu soit béni. Vous étiez mort dans vos offenses. Je ne sais pas quel est le tombeau de ta vie. On pourrait y mettre là, mes amis, d'innombrables noms. Ton tombeau pourrait être l'alcool. Ton tombeau pourrait être la maladie. Ton tombeau pourrait être le cancer. Ton tombeau pourrait être tant et tant d'autres noms. Mais je sais ce soir que le même Jésus qui se tenait au bord du tombeau de Lazare est ici pour toi. Alléluia. Et il veut parler à ton esprit afin que tu passes de la mort à la vie. La Bible dit que nous sommes tous couchés dans la mort. Tous sont atteints. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit tous ont péché. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Qu'il soit simple balayeur ou qu'il soit président d'un État, la Bible révèle que tous sont couchés dans la mort. Mais que Dieu soit béni, il y a un Dieu dans le ciel qui est venu pour la résurrection des morts. Il est venu pour vaincre la mort et délivrer les hommes captifs des puissances des ténèbres pour les ramener à son Dieu, son Père. Il était là, Lazare, touché par la mort, et je dirais quelque chose d'encore de plus dramatique, il était enfermé. Il ne pouvait aucunement sortir. On n'avait pas seulement couché son corps, on avait mis une grosse pierre à l'entrée. Alors il était incapable, sans possibilité. Et quand bien même Lazare se serait réveillé là dans ce tombeau, il était incapable d'en sortir. Il était incapable de rouler la pierre. C'était des pierres immenses, des pierres de plusieurs tonnes qu'on roulait devant les tombeaux taillés dans le rocher. Mes amis, combien de gens ce soir, malgré leur semblant d'être vivants, là dans leur cimetière, eh bien ils sont enfermés et incapable de se sortir de cette situation. Voilà pourquoi Jésus demandera à ce qu'on roule la pierre et qu'un miracle ait lieu. Or, on peut ce soir être enfermé dans l'incrédulité. Il y a des amis ici ce soir, ils entendent l'évangile depuis des mois. Ils ont le témoignage dans leur maison que Dieu ressuscite les morts. Ils ont le témoignage d'une épouse transformée par Jésus. Ils ont le témoignage d'un fils, d'une fille qui a changé. Ils ont le témoignage de parents qui ont été transformés par la puissance de Dieu. Mais ils sont enfermés dans le tombeau. Et là, la pierre roulée à l'entrée s'appelle incrédulité. Oh, la Bible nous montre que des hommes peuvent être enfermés dans l'orgueil, la peur du « quand dira-t-on ». Ce frère nous disait tout à l'heure qu'il rasait les murs pour aller à l'église. Combien de gens sont tenus dans le tombeau de l'orgueil, incapables, mes amis, de se tourner vers Dieu, non pas peut-être que dans leur cœur ils n'en ont pas le désir, mais ils pensent plus au « quand dira-t-on ». Qu'en dira-t-il le Seigneur? Et ils sont là, dans la peur, dans la crainte du voisin, dans la crainte du copain de travail, dans la crainte du membre de famille qui, lui, ne veut pas entendre parler de ce merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. D'autres sont enfermés dans la tradition religieuse. C'est un tombeau glacé. C'est un tombeau froid. Oh, c'est vrai que là, pardonnez-moi l'expression, on peut être conservé. Mais là, mes amis, aucune vie, aucune relation avec Dieu. Tout est rite, tout est tradition. Il n'y a aucun sentiment. Tout est fait machinalement, à des heures fixes, à des dates fixes, à des années fixes. Et on est là, dans son tombeau religieux, avec cette pierre marquée tradition. La Bible nous montre que des hommes sont encore plongés dans la mort. Et là, la pierre qui ferme leur tombeau s'appelle occultisme. Ils ont le culte des morts. Ils sont branchés sur la mort. Ils vivent avec la mort. Ils vivent avec les morts. Ils pensent, mes amis, que la mort produit la vie. Non, la mort produit la mort. Et leur vie est incapable d'être transformée. Il y a des gens qui sont là liés par le spiritisme, d'autres liés par des esprits de mort. Oh, mes amis, ce soir, que Dieu soit béni, Jésus se tient encore une fois au tombeau, amen, au tombeau de votre existence. Combien ont désiré devenir une nouvelle créature? Combien de gens auraient voulu tout effacer? Ah, si seulement leur vie était semblable à l'ordinateur! On peut effacer dans le disque dur, on peut effacer dans la mémoire, on pourrait là, mes amis, oublier à jamais, mais c'est impossible à devenir une nouvelle créature, devenir possesseur d'une nouvelle vie. Ah, si je pouvais tout recommencer, dit un jeune homme. Si je pouvais tout recommencer, dit un père de famille, constatant la détresse, la misère, l'échec, oh, se frappant la poitrine et disant, si seulement je pouvais repartir à zéro, si je pouvais avoir un nouveau cœur, un nouvel avenir, si je pouvais avoir de nouvelles aspirations. Certains ont pensé que pour être nouveau, il fallait peut-être simplement changer de pays. Ils ont dit, allons ailleurs, ça va être nouveau. Mais quand ils sont arrivés ailleurs, ils ont trouvé les choses anciennes. Et oh, ils ont pensé, il vaut mieux changer de femme, il vaut mieux changer de foyer, il vaut mieux reconstruire quelque chose. Et là, ils pensaient trouver du nouveau, et ils ont trouvé des choses anciennes. Ah, mes amis, certains ont pensé qu'il fallait simplement, pardonnez-moi la boutade, mais s'engager dans la Légion étrangère. Il paraît que la Légion étrangère vous offre une nouvelle vie. On oublie qui vous êtes, on vous demande même pas votre nom, on vous demande pas votre carte d'identité, on ne vous demande pas, mes amis, quels sont vos parents, quelles sont vos racines? On vous demande pas et on ne voit pas, on ne veut pas voir la couleur de votre peau. Ce qui est intéressant, c'est d'entrer à la Légion. On y rentre, une porte se ferme derrière vous et on vous dit, monsieur, vous êtes dans une nouvelle famille et vous allez vivre quelque chose de nouveau. Eh bien non, il n'y a rien de nouveau. Parce que les hommes restent les hommes et que le cœur de l'homme reste sous l'emprise du péché. Mais que Dieu soit béni, il y a une bonne nouvelle. Si quelqu'un est en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Elle s'adresse aux gens religieux, elle s'adresse aux irreligieux, elle s'adresse aux vieillards, elle s'adresse aux enfants, si quelqu'un. Amen. Si quelqu'un. Oh, dans ce quelqu'un, ce soir, tu trouves ta place, amen, quel que soit ton passé, quelle que soit ta culpabilité, quelle que soit la somme de tes iniquités, quelle que soit la somme de tes fautes, eh bien si quelqu'un, Que tu sois prostitué, que tu sois homme d'affaires, que tu sois un bon père de famille, que tu sois une femme exemplaire, ce soir, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de repartir avec le Seigneur. Et l'Évangile, que Dieu soit béni, c'est la bonne nouvelle pour tous les désespérés en recherche d'une vie nouvelle. Combien de jeunes gens, semblables à ce que j'étais autrefois, 21 ans, j'avais baroudé dans le monde, j'avais pendant plus de 4 ans traversé des océans, j'ai cherché dans des pays des réponses à une vie nouvelle, j'ai cherché à effacer mon passé, j'ai cherché à changer de look. Oh, pendant une certaine période de ma vie, je ne voulais plus être Guy Bergamini. Alors je me suis laissé pousser les cheveux. Je me suis laissé pousser la barbe. Et quand je me regardais dans la glace, je disais, super, t'es un homme nouveau. Mais dans mon cœur, dans ma vie, c'était toujours la même mort. Et je bénis Dieu de ce que le Seigneur lui est venu avec sa puissance. Il m'a parlé, et il a parlé à mon cœur, il m'a parlé de son amour, il m'a parlé de sa grâce, il m'a parlé de son pardon, il m'a parlé de sa puissance, et je lui ai dit, Seigneur, fais ces choses au-dedans de moi. Et sa voix a retenti à travers un témoignage, j'ai cru au Seigneur Jésus, et j'ai été sauvé. L'espoir d'une vie nouvelle, c'est Dieu qui nous l'apporte en son Fils bien-aimé. Aucune religion ne pourra vous faire naître de nouveau. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui était là pour Lazare, est là pour toi ce soir. Il parle à ton cœur. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que l'homme vit une tragique situation. Il est là, devant Dieu, sous trois aspects. Le premier aspect qu'on voit dans l'Écriture, c'est que l'homme est atteint d'un cancer. Oh, ce n'est pas ce cancer physique, c'est ce cancer spirituel. Il est touché par le cancer du péché. Et la Bible nous dit que ce cancer, rien ne peut le mettre en rémission. L'homme est un homme atteint par le péché et seul le Seigneur peut briser ce joug au-dedans de lui. Il est incapable de se sauver lui-même. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui essaie depuis plusieurs temps de changer de vie, qui essaye de repartir à zéro, qui vient vers sa femme avec des larmes et qui lui dit « Chérie, je te promets, c'est la dernière fois que je bois. Demain sera différent. » Je pense à ce garçon qui va trouver sa famille, qui dit « Papa, maman, c'est la dernière fois que je me drogue. Je vous promets que c'est terminé. » C'est peut-être cette mère qui, malheureusement, est infidèle et devant les pleurs de ses enfants, leur dit le soir, c'est terminé, je ne mènerai plus cette vie. Mais la Bible nous dit que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'un sauveur. Et lui, il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour te sauver. La Bible nous montre que l'homme est aussi condamné à mort, sans possibilité de rachat. Condamné à mort, il est dans le couloir de la mort, et il va à la rencontre de Dieu. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et si nous n'avons pas rencontré Jésus, le péché est en nous, la mort est en nous, et il y a une condamnation sur nous. Et cette condamnation, personne ne peut l'enlever. Ni les rites religieux, ni ce que nous pourrions faire comme bonnes œuvres, rien ne peut enlever cette condamnation. Sinon, le Fils de Dieu, qu'il a porté pour nous sur le bois de la croix. Oh, mes amis, la troisième situation, c'est que l'homme, par la Bible, dans les pensées de Dieu, est perdu, avec l'incapacité de retrouver son chemin. Il est aveugle, il est égaré, il est là sans possibilité de trouver la route qui mène vers Dieu. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais j'ai gardé dans un petit coin de ma mémoire un épisode qui m'est arrivé quand j'étais petit. Lorsque j'étais enfant, j'avais accompagné ma maman dans un magasin un peu moderne qui avait plusieurs étages. C'était le modernisme qu'arrivait dans notre ville. Et dans ce petit immeuble, il y avait toutes sortes de choses. C'était comme une quincaillerie en gros. Il y avait de quoi pour un petit enfant. Là, mes amis, illuminez vos yeux. Il y en avait partout, ça brillait partout. Et alors que j'étais plutôt attentif à ce qu'on vendait, à toute cette quincaillerie, je n'ai pas vu ma maman se déplacer et puis aller à la caisse payer ce qu'elle avait pris. Et je me suis retrouvé là, au beau milieu de ce magasin, sans ma mère. Et machinalement, j'ai commencé à descendre les escaliers. Je suis arrivé au dehors de ce magasin et les larmes ont commencé à couler. Et je suis parti dans une direction, croyant que ma maison était par là-bas. Je suis parti en pleurant et des gens m'arrêtaient et me disaient « Qui es-tu ?» Et comme j'avais du mal à dire « Bergamini », c'est pas facile à dire, n'est-ce pas ?« Bergamini ». Alors je disais « Mini », peut-être « Maxi », je ne sais pas ce que je disais. Mais les gens ne savaient pas qui j'étais et je ne savais pas qui j'étais. Mais je savais une chose, c'était que j'étais perdu. J'étais bel et bien perdu. Mais béni soit Dieu, on m'a retrouvé. Mais vous voyez, l'homme, il est comme j'étais enfant, incapable de retrouver le chemin. La Bible dit qu'il est perdu. Il est atteint du cancer, du péché. Il est là dans une condamnation et il est perdu. Le péché nous sépare de Dieu. Mais que Dieu soit béni. Dieu en Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés avec lui, qu'il y ait une réunion avec lui et que nous ne soyons plus des enfants égarés. C'est ce que la Bible enseigne à travers la parabole que Jésus nous donne dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Il parle d'une brebis perdue. Il parle d'une pièce perdue. Il parle d'un enfant perdu. 99 brebis ont été comptées. Le berger les a fait passer entre ses jambes. Et il en a compté 99. Et là, son visage a blêmi. Il s'est dit, il manque une brebis. Il me manque une brebis. Et il dira aux autres bergers, il me manque une brebis. Et chaque berger sait ce que vaut une brebis. Alors il les confie à ses bergers, il prend son bâton, il prend sa fronde, il prend un vêtement de peau, et le voilà à la tombée de la nuit, commençant à parcourir les endroits, et il appelle sa brebis, il l'appelle par son nom, il la connaît, et la brebis connaît son berger. Et en vain, il appelle, il appelle, il appelle. Il risque à chaque instant sa vie, mais que lui importe, parce qu'il sait que sa brebis lui est chère et qu'elle est sous une menace de condamnation. Elle est perdue, elle est condamnée, elle risque d'être là, morte ce soir. Et il veut la trouver. Et il la cherche, et il la cherche, et il va, et il va, et il va encore. Et la Bible nous dit, il finit par la trouver. Et quand il a trouvé sa brebis, ah mes amis, la serre contre lui. Ah, il se réjouit avec elle, il la met sur ses épaules et il rentre à la bergerie. Quelqu'un dirait ce soir, mais pourquoi ce berger a-t-il été si insensé? Pourquoi a-t-il laissé les 99? N'en avait-il pas 99? Qu'est-ce que c'est qu'une brebis quand on en a 99? Eh bien, vous voyez, ce soir, il y a des centaines de personnes ici qui appartiennent à Jésus. Et le Seigneur dit, ce soir, c'est la brebis perdue qui m'intéresse. C'est celle qui est encore égarée que je veux sauver. Ah, c'est pas avec nous ce soir que le Seigneur veut se réjouir. C'est avec toi. Parce que c'est toi qu'il aime, parce que c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il est allé à la croix, c'est pour toi qu'il a affronté le jugement divin, c'est pour toi qu'il a été cloué. Il t'aime comme personne ne t'aime, et depuis des mois, il te cherche, il appelle, il frappe à ton cœur, et tu résistes, tu t'enfuis, mais le Seigneur poursuit sa route, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Le diable n'a qu'un dessein, te voir mourir pour l'éternité, mais Dieu n'a qu'un seul souci, c'est le salut ce soir de ton âme, c'est de te ramener à la bergerie divine. Que Dieu soit béni. Peut-être ce soir, nous pourrions dire, ne reste-t-il pas 9 pièces au collier de la fiancée? Est-ce qu'avec cela, elle ne pourrait pas poursuivre sa route et aller dans son avenir? Non, il lui manquait une pièce. Elle a allumé la lampe, elle a balayé sa maison, et mes amis, elle a fait le nettoyage, elle a retrouvé sa pièce. Tu vis dans la nuit du péché, Jésus veut balayer ta vie, et Jésus veut te sauver ce soir. Tu es un fils de Dieu. Tu es égaré dans ce monde. Le Seigneur ne dit pas, j'ai des fils à Saint-Pierre, j'ai des enfants à Saint-Pierre, je me contente avec eux, il manque un fils. Et ce fils, Dieu veut qu'il soit sauvé. Il n'abandonne pas le Seigneur. Il n'abdique pas. Il ne dit pas, je laisse tomber. Il ne dit pas, maintenant, je me réjouis avec les autres. Cette soirée, elle a été faite pour toi. Parce que tu es la brebis perdue. Parce que tu es la drachme perdue. Parce que tu es l'enfant perdu. Et parce que Dieu a un projet pour toi, te faire naître de nouveau. Que son nom soit béni. Amen. Tu peux naître de nouveau ce soir et devenir un enfant de Dieu, lavé, purifié par le sang précieux de Jésus, être pardonné, être là, mes amis, renouvelé et de commencer une vie nouvelle avec lui. Le Dieu qui a sauvé Lazare est ici ce soir pour te sauver de la mort et te donner la vie éternelle, que son nom soit béni.